Ma radio.
Bonjour, bienvenue dans Germaine Tillion, une intellectuelle engagée. Une émission présentée par les 1MGA en partenariat avec l'association à la rencontre de Germaine Tillion. La vie et les combats exceptionnels de Germaine Tillion, dont notre établissement porte le nom depuis peu, ne laissent personne indifférent. Cependant, Germaine Tillion, d'un naturel modeste et discret, n'a jamais été une personnalité très médiatisée et son œuvre reste aujourd'hui méconnue du grand public. C'est pourquoi, au deuxième trimestre, Clotilde Gaultier, professeure passionnée de lettres modernes, a décidé de faire étudier à cette classe de première sciences et technologies du management et de la gestion les extraits de sa pièce de théâtre. À la fin du mois de février, le théâtre de la Petite Montagne, finalement contraint de reporter en mai, devait donner une représentation d'une opérette à Ravensbrück au lycée. Très enthousiaste, ma collègue et moi-même avons alors projeté de faire préparer aux élèves une émission radiophonique sur les valeurs défendues par Germaine Tillion. Aujourd'hui, l'association Germaine Tillion à Paris est la gardienne de l'œuvre de Germaine Tillion. Marie-France Brugvin-Carenzo et Martine Chevillard en font partie. Elles sont aussi membres de l'association Byzantine à la rencontre de Germaine Tillion. Marie-France et Martine ont accepté d'animer cette émission et nous les en remercions chaleureusement, car les élèves ont mené un important travail de recherche documentaire et de rédaction. Marie-France, bonjour. Pourriez-vous présenter l'association à la rencontre de Germaine Tillion aux auditeurs ?
Bonjour. Le 17 avril 2018, il y aura 10 ans exactement, nous organisions à Besançon la première réunion de notre association franc-comtoise. C'était 2 jours avant le décès de Germaine Tillion à 101 ans. Nous avions choisi d'appeler notre association à la rencontre de Germaine Tillion car nous nous étions donné comme mission de lui rendre hommage et de faire fructifier le rayonnement de sa vie et de son œuvre, notamment auprès des jeunes, par des actions qui pourraient être artistiques, culturelles, éducatives et citoyennes. Germaine Tillion aura traversé tout un siècle en consacrant ses forces au respect de la dignité humaine et en mettant au service de ses recherches et engagements des qualités hors du commun. Lucidité, honnêteté, hauteur de vue, érudition, capacité d'écoute, générosité, tolérance. Des valeurs fondées sur les principes républicains et la conviction que le dialogue est la seule voie de progrès. Valeurs universelles importantes à cultiver. Pourquoi la ville de Besançon et la Franche-Comté sont-elles concernées ? Parce que la personnalité et l'action de Germaine Tillion s'y inscrivent, en effet. D'une part, l'intégralité de ses archives en rapport avec son action au camp de Ravensbrück est consacrée et conservée au musée de la Résistance et de la Déportation, à la citadelle de Besançon. D'autre part, de nombreux franc-comtois immigrés ou issus de l'immigration viennent de la région des Aurès, en Algérie, où, en tant qu'ethnologue, Germaine Tillion a enquêté, agi et vécu dans les années 30. Une des personnes à l'origine de notre association, amie de Germaine, venait justement des Aurès, Gemma Joglal, décédée en 2016. Elle faisait partie, comme plusieurs d'entre nous, depuis les années 90, du CISIA, Comité de soutien aux intellectuels algériens. Nous avions le désir et la volonté de rendre hommage à la personnalité exceptionnelle de ce grand témoin du XXe siècle, qu'est Germaine Tillion. Il s'agit d'un travail de mémoire active qui ne prend son sens que résolument tourné vers l'avenir et pour la jeunesse. Notre association franc-comtoise œuvre ainsi depuis des années à faire connaître le parcours de cette grande dame tout au long de sa vie. Des Aurès à Paris, de Ravensbrück à la Casbah d'Alger, puis dans plusieurs pays d'Afrique et d'Orient, de l'étude des Chaouias ou des Touaregs, à l'analyse critique du fonctionnement d'un camp nazi, de sa lutte contre la torture, la peine de mort et pour la dignité humaine, la formation dans les prisons, au combat des sans-papiers, Germaine Tillion aura traversé tout un siècle. La nation a reconnu l'exemplarité de ses choix en décidant de transférer ses cendres au Panthéon le 27 mai 2015 avec celles de trois autres personnalités dont Geneviève Antonioz de Gaulle, sa camarade de captivité. Pour lui rendre hommage tout au long de ce 10e anniversaire de sa mort et pour mieux faire connaître ses multiples vies et qualités, notre association a souhaité mettre en place un programme d'activités culturelles destiné au grand public et aussi plus particulièrement aux jeunes générations dans une optique d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en Bourgogne, Franche-Comté. Par exemple, la réalisation d'un site internet dynamique à dimension pédagogique, l'organisation d'un tandem solidaire avec un établissement scolaire bisontin et comme chaque année, des manifestations significatives, projection de films en présence de leurs auteurs, comme le premier film, il y a 10 ans, « Les trois vies » de Germaine Tillion, de Gilles Combet et de Jean Lacouture, jusqu'au dernier, ce 15 mars 2018, avec « Retour en Algérie » d'Emmanuel Audrin. Exposition de photographie, « Des femmes en résistance » de Marie Rameau, ou « Algérien qui suis-je moi » de Théo Robichet, pour le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Conférences, comme celle d'Armel Mabon, les prisonniers de guerre indigènes. Des représentations théâtrales, une opérette à Ravensbrück, réalisée par Rose Sarrazin, du théâtre de la Petite Montagne. Ou Dialogue, une adaptation théâtrale de textes de Germaine par Jean Quercy. Et encore, à l'occasion du transfert des cendres de Germaine Tillion au Panthéon, un hommage, concert-lecture à plusieurs voix, en partenariat avec le trio musical Castro Balbi. Et un hommage à Jean Lacouture, biographe et ami de Germaine, avec ce titre « Le témoignage est un combat ». Témoignage, lecture, film, l'après-midi pour les lycéens, le soir pour tout public. Notre but, que ces rendez-vous culturels incitent jeunes et moins jeunes à devenir des lecteurs assidus de la Dame du siècle, comme on l'appelle. Mais surtout, de prendre à leur compte, à l'instar de Germaine, les valeurs qui fondent la démocratie. Nous terminerons par cette belle évocation de Belinda Cadone. Elle dit, je la cite, « Si le héros est la figure de l'excellence dans les valeurs qui sont les nôtres à un moment donné, Tillion réalise l'idéal occidental de l'humanisme, incarnant ainsi l'héroïsme contemporain. Figure sublime et modeste à la fois. Héroïsme que je dis modeste, celui qui, résultant d'une présence à soi, nous permet de ne pas succomber au conformisme ambiant et de sortir de nous-mêmes pour, à un moment donné, préférer l'autre à nous-mêmes. Non, par altruisme sacrificiel, c'est des mots un peu compliqués, mais parce qu'il arrive parfois un temps, un instant, où contribuer à la préservation de l'idée de l'humanité est plus précieux que sa vie propre.
Ma radio.
Germaine Tillion était avant tout une grande ethnologue, c'est-à-dire une scientifique qui étudie les conditions de vie d'un groupe humain. Dès 1934, elle se voit confier une première mission en Algérie. Quels objectifs poursuivait Germaine Tillion ?
Germaine Tillion débarque en décembre 1934 à Alger, envoyée par le grand anthropologue Marcel Mauss du Musée de l'Homme. Elle vient observer les Chaouia, une tribu berbère semi-nomade dans la région montagneuse de l'Aurès. Elle mène des recherches indépendantes, accompagnée de Thérèse Rivière, muséographe déjà expérimentée. Durant ses missions successives de 1934 à 1937, puis de 1939 à 1940, Germaine Tillion suit cette tribu dans ses déplacements saisonniers pour en apprendre plus sur sa culture.
Comment est-elle accueillie et dans quelles conditions vit-elle ?
Germaine Thion raconte son expérience dans son livre « Il était une fois l'ethnographie » paru en 2000. Elle raconte « Au passage, les grands vieux venaient me saluer, boire une tasse de café avec moi et ensuite en leur compagnie, je reconstituais des généalogies. J'assistais aux répartitions des corvées, à l'épluchage des affaires d'honneur, j'apprenais avec qui telle fille devait se marier et qui elle épousait finalement. Pourquoi telle fille s'était brouillée avec telle autre ? Tous ces détails en disent long sur les liens amicaux que Germaine Thion a su tisser avec les Algériens. Grâce à sa bienveillance, c'est la seule femme qui est parvenue à gagner la confiance de cette tribu, assez difficile d'accès à l'époque.
Qu'a observé Germaine Thion en particulier et quelles ont été ses conclusions ?
Elle s'est surtout intéressée aux relations entre les sexes, aux lignées, à la vie économique et ses aspects matériels, au statut de la femme chaouïa et la transmission du patrimoine. Dans « Il était une fois l'ethnographie », Germaine Thion raconte « Les gens de cette région étaient à la fois éleveurs et cultivateurs, car ni l'élevage ni la culture ne pouvaient les nourrir. Ils étaient donc semi-nomades, l'hiver ils vivaient au Sahara, l'été tout en haut des cimes, et en mi-saison dans les gourbis qui avoisinaient la Guéla, forteresse où ils stockaient leurs récoltes. Elle suit le pèlerinage qui, chaque année, chemine sur 200 km jusqu'à la montagne, du Djebel Bouss et en compagnie de Thérèse Rivière, assiste aux cérémonies de mariage et de circoncision. Germaine Thion reconstitue la généalogie de chaque famille, sur environ 2 siècles, en y joignant tous les événements retenus par les mémoires.
Quelles traces reste-t-il de ce travail et comment est-il parvenu jusqu'à nous ?
Germaine Thion a rempli des dizaines de carnets de notes. Malheureusement, de tout cela, il ne reste plus grand-chose. Son livre « Il était une fois l'ethnographie » est paru en 2000, près de 60 ans après. Germaine Thion y a retranscrit son expérience à partir de ses souvenirs et de bribes de documents sauvegardés. Elle avait pris des photographies qui demeurent un témoignage unique des Aurès à cette époque-là. Et c'était d'ailleurs la seule spécialiste de l'Algérie.
De Paris à Alger, de Stéphanie Sandoz et Samia Bramia.
Souvent je t'ai rêvé. J'entends les chants kabyles dans ta casbah et sur ton île de vie les rires des aînés. Daliaman قال ياسمين فسطح مسا تغني وتحكي على السين والناس من كل مكان جاية ليها زينها وفي النهاية ناس بسحر العشاء. Dans ta belle robe blanche, telle une mariée immaculée, derrière le voile, l'amour, la tolérance, pour qu'un jour tes enfants puissent trouver la paix. Rabin Lila Wenha, la cloube la habet ou nas hajrat. نساو واش خلا ولهم الكبار بيضا عضرا رفعه راسها وسط النار تطين لبا واجي قاندي اسي نفيسون كم نبوى ميخلانجي دي باري عالجي. Est une citadelle.
عدت ايام الحقد والزين بدا ينسى ويداوي جرحه بالي غيرهم عليها فهموا لها القيمة
Inès, avec tes camarades, tu as travaillé, vous avez travaillé sur le thème Germaine Tillion, résistante de 1940 à 1943. Alors, à son retour en France, Germaine Tillion apprend que le maréchal Pétain vient de signer l'armistice et qu'il demande aux Français de collaborer avec l'Allemagne nazie. Que fait alors Germaine Tillion ?
Germaine Tillion est indignée par la décision de Pétain. Elle a vu de près la montée du nazisme quand elle est allée en Allemagne en 1933 et en 1937. Elle pense que cette idéologie est très dangereuse. Germaine Tillion se dit qu'il faut faire quelque chose et se met à la recherche d'autres personnes qui pensent comme elle. C'est comme cela qu'elle rencontre dès l'été 1940 Paul Haué, un colonel en retraite avec lequel elle décide de monter une filière de résistance clandestine. Sa mère, Émilie, y participe. Pour cacher sa véritable identité, Germaine Tillion prend le pseudonyme de Coury.
Quelles sont alors les activités de Germaine Tillion sous ce pseudonyme ?
Germaine Tillion écrit des tracts pour mettre en garde la population contre l'occupation allemande et la collaboration. Elle donne les papiers d'identité de sa propre famille à des amis juifs à qui elle sauve ainsi la vie. Elle participe à la création de filières d'évasion pour les militaires français et anglais. Germaine Tillion collecte également des renseignements qu'elle transmet à Londres. En plus de ses activités clandestines, elle s'occupe ouvertement, avec le colonel Haué, des prisonniers et des blessés qui viennent d'Afrique et d'Asie. Elle leur envoie des colis, elle leur trouve des marraines. Elle organise aussi des équipes de visite dans les hôpitaux.
Et est-ce que cette activité clandestine était dangereuse ?
Oui, absolument. D'ailleurs, 19 membres de ce réseau ont été arrêtés en 1941, puis condamnés à mort. Germaine Tillion est intervenue pour demander leur grâce, mais en vain. Finalement, 7 d'entre eux, les hommes, ont été fusillés au Mont Valérien en février 1942, et 3 femmes sont restées en prison. Les autres ont été relâchés faute de preuves. Les membres du réseau du Musée de l'Homme avaient été dénoncés par un traître, et ce qui est arrivé un peu plus tard à Germaine Tillion, le 13 août 1942.
Alors, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ?
L'Abwehr, la police allemande, est venue l'arrêter à la gare de Lyon. Germaine Tillion pensait y rencontrer un membre du réseau Gloria, mais celui-ci était infiltré par un agent double, l'abbé Alech. Germaine Tillion a été ensuite emprisonnée à Paris, à la prison de la Santé, puis à Fraisse.
L'emprisonnement de Germaine Tillion a-t-il interrompu ses activités de résistance ?
Non, pas du tout. Grâce à un ami, Marcel Montmarché, qui lui apportait du linge en prison, Germaine Tillion était au courant des dernières nouvelles diffusées sur Radio Londres. Elle grimpait sur une étagère de ses cellules et elle transmettait les informations par la bouche d'aération aux autres prisonnières, qui à leur tour faisaient de même.
On la voit vraiment très active. Combien de temps Germaine Tillion est-elle restée en prison ? Et que s'est-il passé ensuite ?
Germaine Tillion est restée plus d'un an en détention, d'abord à Paris puis à Fresnes, où elle a pu consulter sa documentation scientifique et poursuivre la rédaction de sa thèse sur la tribu Abderrahman. Les nazis lui confisqueront son travail qui disparaîtra dans le trésor du code de Ravensbrück.
Alors, nous allons maintenant passer le chant des partisans, l'hymne des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, interprété par les Stentors.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
Sortez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Si tes compagnons dans la nuit la liberté nous écoutent.
Radio.
Valentin, avec tes camarades, vous avez travaillé sur Germaine Tillion, déportée. Alors, en octobre 1943, Germaine Tillion est déportée à Ravensbrück avec d'autres résistantes. Et j'aimerais savoir dans quelles conditions Germaine Tillion et ses camarades ont-elles vécu à Ravensbrück.
Dans ce camp de concentration, les détenus meurent à petit feu, épuisés et mal nourris. Près de 3000 femmes, parfois avec des enfants, s'entassent dans les blocs, on dort où on peut, à même le sol que recouvre une mince couche de paille souillée d'excréments. Il n'y a pas assez de robinets ni de toilettes. La saleté et la vermine deviennent insupportables. Les épidémies s'emparent des pauvres femmes, qui ont de moins en moins à manger. 200 grammes de pain et des soupes immondes sans pommes de terre. La mère de Germaine Tillion, Émilie Tillion, est déportée à Ravensbrück en 1944 et est gazée en 1945. Toutes deux avaient été déportées sous le régime Nacht und Nebel.
Que signifie ce statut de Nacht und Nebel ?
Les détenus classés NN, c'est-à-dire nuit et brouillard, étaient des résistants totalement isolés du monde extérieur dès leur arrestation. Selon les nazis, les NN devaient disparaître sans laisser de traces. Il leur était formellement interdit de recevoir des lettres, des colis ou des visites. Malgré tout, Germaine Tillion résiste.
Alors, comment Germaine Tillion est-elle parvenue à résister ?
Germaine Tillion analyse le fonctionnement économique du système concentrationnaire et anime des conférences sur ce sujet pour les autres détenus. Plus tard, dans son ouvrage intitulé Ravensbrück, Germaine Tillion témoignera : si j'ai survécu, je le dois d'abord et à coup sûr au hasard, ensuite à la colère, à la volonté de dévoiler ses crimes et enfin à une coalition de l'amitié. Le groupe donnait à chacun une infime protection, manger son pain sans qu'on vous l'arrache, retrouver la nuit le même coin de grabat. Mais il donnait aussi une sollicitude amicale indispensable à la survie. Sans elle, il ne restait que le désespoir, c'est-à-dire la mort.
Eddie ? Avec tes camarades, vous avez lu, je pense, une opérette à Ravensbrück.
Oui.
Bien, donc cette solidarité entre les prisonnières dont vient de parler ton camarade a permis à Germaine Tillion d'écrire cette opérette à Ravensbrück. Et on voit maintenant comment vous l'avez découverte. Est-ce que tu peux nous préciser dans quel contexte
cette pièce de théâtre a été écrite.
Germaine Tillon l'a écrite pendant sa déportation, c'est-à-dire dans le camp de concentration de Ravensbrück à la fin de l'année 1944. Les autres prisonnières aidaient Germaine Tillon en lui volant des morceaux de papier en dissimulant son manuscrit. Elle a écrit cette opérette en 10 jours, cachée dans une caisse d'emballage, et savait bien sûr qu'elle prenait d'énormes risques.
Ben oui, sûrement. Hein. Quelles conditions pour écrire? Est-ce que tu peux nous résumer une opérette à Ravensbrück?
Un personnage énigmatique, le naturaliste décrit les différents types de déportés à Ravensbrück avant de les laisser plaisanter, rêver et chanter ensemble en parodiant des airs célèbres. Oh. La pièce est drôle grâce à un humour d'une noisseur infinie.
Oui, et que signifie son sous-titre, le Verfügbar aux enfers?
Le mot Verfügbar désigne les déportés disponibles qui n'étaient pas affectés à un travail précis. Un chef de commando pouvait leur demander à tout moment d'accomplir une corvée. Germaine Tillon en était.
Et en quoi cette pièce a-t-elle aidé les détenus, ses camarades, à résister?
Les prisonnières l'ont joué pour la première fois à Ravensbrück. Elles ont fabriqué leurs costumes avec ce qu'elles trouvaient et elles chantaient aussi. Cela leur procurait de la joie.
Oui, ça paraît difficilement concevable, mais comment se fait-il que le texte n'ait pas été détruit?
C'est grâce aux amis de Germaine Tillon, en particulier Jacqueline Dalincourt, une autre grande résistante, qui a sorti clandestinement les feuilles lors de la libération de Ravensbrück en 1945.
Et aujourd'hui, ce texte est-il connu?
Oui, car l'œuvre a été enfin publiée en 2005. Elle a été de nouveau mise en scène en 2007 à Paris, au Théâtre du Châtelet, pour célébrer le centenaire de Germaine Tillon. Puis la pièce a été présentée en 2010 à Ravensbrück pour marquer le 65e anniversaire de la libération du camp.
Voilà, après cette présentation qui nous fait vraiment très intéressante, nous allons entendre un extrait de la pièce jouée par le Théâtre de la Petite Montagne.
J'ai dit oui presque sans y penser. C'est comme ça dans un train de la ligne du Nord. J'eus ma place retenue à l'œil et sans effort. Et quand le train s'est arrêté, on ne m'a pas demandé mon billet. Mais malgré le plaisir de la nouveauté, j'aurais bien voulu m'en aller. Écoute, jeune Verfügbar, l'air que ces bagnards chantent dans la rue, c'est sur cet air, vois-tu, que tu m'es apparu. La nuit tombait déjà, étouffant tes pas sur le sol glacé. Chiens et gardiens aboyaient. On m'a dit, on ne m'a rien dit. Et je n'ai même pas eu à dire oui. Ahuri et moulu sortant du fourgon, j'entendis d'abord des jurons. J'aperçus ensuite nos gardiens. Ils avaient des cravaches à la main. Malgré la différence des vocabulaires, je compris de suite ce qu'ils en voulaient faire. Dans un rôle glacé, on t'a déshabillé, puis numéroté, puis on t'a fait poser pour bien t'acclimater. Défaillant de froid et louchant d'effroi, mais les dents serrées, pourtant tu n'as pas pleuré. On m'a d'abord pris mes bijoux, ma valise et mon sac en cuir roux, mes petites provisions, mon bout de saucisson, ma chemise et mon pantalon. Je croyais qu'on m'avait tout pris et j'espérais que c'était fini. Comme un bébé laissant, j'étais nu, et c'est alors qu'ils m'ont tondu. On t'a pris tes cheveux pour serrer des moyeux, mais ça ne suffit pas. Tu travailleras
tu ne mangeras pas. Quand tu succomberas, on t'achèvera, on te brûlera, et ta graisse encore servira.
Après la libération du camp de Ravensbrück, Germaine Tillion passe plusieurs années à rechercher des témoignages sur les camps de concentration. De 1954 à 1958, Germaine Tillion va retourner en Algérie pour, entre autres, y fonder des centres sociaux. C'est ce que Maria va nous expliquer.
Jacques Soustelle, alors gouverneur général de l'Algérie, avait demandé à Germaine Tillion de fonder des organismes d'éducation destinés à développer le progrès économique, social et culturel de collectivités sous-développées.
Pouvez-vous nous expliquer plus concrètement quelle était la vocation de ces centres sociaux ?
Il s'agissait d'aider les adolescents algériens à apprendre à lire, à écrire et à acquérir des savoir-faire et un vocabulaire professionnel tout en maintenant des liens avec leur famille. Ils pouvaient participer à des activités comme le football, le théâtre de marionnettes ou encore le chant.
Et qui intervenait dans ces centres sociaux ?
Les centres sociaux étaient animés par des équipes d'éducateurs de différentes spécialités et dirigés par un chef de centre. Les jeunes Algériens issus de classes sociales les plus défavorisées avaient également accès à des soins sociaux.
Ma radio.
Germaine Tillion est restée amie avec des membres des centres sociaux en Algérie. Lors de cette sale guerre, ces derniers victimes de la répression gouvernementale vont l'appeler à l'aide. Zakaria va maintenant vous raconter comment Germaine Tillion s'est engagée de manière pacifiste durant la guerre d'Algérie.
L'année 1957 est en effet marquée par un tournant décisif dans le conflit grâce à l'engagement de Germaine Tillion. En juin, elle accompagne les enquêteurs missionnés par la Commission internationale contre le régime concentrationnaire dans les prisons, les camps et les centres sociaux qu'elle a créés en Algérie. Germaine Tillion y recueille de nombreux témoignages sur des actes de torture et des exactions.
C'est d'ailleurs François Mitterrand, alors garde des Sceaux, qui avait envoyé Germaine Tillion en Algérie. Pour quelle raison ?
Germaine Tillion était chargée d'apaiser les tensions entre les deux camps. Yacef Saadi, le chef du mouvement indépendantiste dans la zone d'Alger, entre en relation avec Germaine Tillion. Alors qu'il est en partie responsable des attentats qu'ils ont endeuillé la veille, la ville, elle parvient à le convaincre de ne plus s'attaquer à la population civile. Germaine Tillion consacre aussi beaucoup d'énergie à informer les responsables français. Elle multiplie les démarches pour éradiquer les actes de torture et sauver des condamnés à mort. Elle est intervenue aussi bien pour des militaires parachutistes et des harkis que pour les membres du réseau Janson.
Et quelles en ont été les conséquences des négociations opérées entre Germaine Tillion et Yacef Saadi ?
Quand le chef de zone du FLN est arrêté par les militaires français, elle obtient difficilement qu'il soit remis à la justice. Germaine Tillion a vraiment dû faire preuve d'obstination. Un an plus tard, elle témoignera en sa faveur lors de son procès. La presse publiera d'ailleurs sa déclaration qui suscitera deux attaques dès 1958. Germaine Tillion a d'abord répondu publiquement à Simone de Beauvoir en 1964, puis au général Massu en 1971.
Et que pensait la société française de ses prises de position dans cette guerre d'indépendance ?
Germaine Tillion s'est exprimée à ce sujet dans de nombreux articles et livres tels que « À la recherche du vrai et du juste » ou bien « Fragments de vie ». Son engagement lui a valu l'admiration et la reconnaissance de beaucoup, mais a aussi provoqué des débats passionnés.
Merci. Après avoir traversé la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, Germaine Tillion se rend compte que les droits de l'homme sont toujours menacés. Alicia s'est penchée sur la lutte de Germaine Tillion pour défendre les droits humains dans différents domaines. Germaine Tillion a notamment dénoncé ce qui se passait dans les camps soviétiques.
En effet, en 1951, avec l'ancien déporté communiste David Rousset, elle crée la Commission internationale contre le régime concentrationnaire qui dénonce l'horreur des camps soviétiques. Ceci relève bien du système concentrationnaire puisque les prisonniers sont privés arbitrairement de leur liberté, sans vrai jugement, pour des motifs politiques, raciaux, religieux ou philosophiques.
Ils exécutent un travail forcé au bénéfice de l'État dans des conditions de détention inhumaines.
Et comment Germaine Tillion et les membres de l'ADIR luttent-ils contre les camps de concentration en général ?
L'ADIR rassemble des résistantes emprisonnées ou déportées du fait de leur engagement pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles font une déclaration solennelle et unanime lors d'un conseil d'administration de leurs associations. Elles refusent de croire qu'aucun progrès n'est possible, mais affirment que cela nécessite de dire la vérité avec bonne foi et sans haine.
À partir de quand Germaine Tillion a-t-elle commencé à lutter contre la torture ?
À partir de janvier 1957, car le gouvernement français commet l'erreur dramatique de confier les pouvoirs de police à l'armée en Algérie. En juin 1957, Germaine Tillion accompagne les enquêteurs dans les prisons et les camps en Algérie. Elle y recueille de nombreux témoignages de torture marqués par des mutilations et des traumatismes psychologiques. Dans Fragments de vie, Germaine Tillion raconte comment les parachutistes ont atrocement torturé Fatima Amdiken, qui avait servi d'intermédiaire avec Yassef Saadi. Cette jeune enseignante s'est fait torturer à l'électricité, complètement dévêtue parce qu'elle n'a pas voulu coopérer. Les Français ont obligé l'une de ses amies, torturée elle aussi, à assister à cette séance et à lui envoyer des décharges électriques.
Et pourquoi Germaine Tillion développe-t-elle l'enseignement dans les prisons dès 1959 ?
Elle souhaite aider les personnes en souffrance. À l'égard de la population carcérale, elle éprouve une grande compassion et ne se contente pas de le dire en public. Elle envoie également des colis aux détenus qu'elle connaît.
Ma radio.
Grâce au travail très sérieux de la classe, vous retiendrez le caractère extraordinaire de la vie de Germaine Tillion. Les élèves vont à présent vous parler du souvenir que garde la société de Germaine Tillion. Nous laissons désormais la parole à Tuline. Elle va se demander pourquoi on entend souvent dire que Germaine Tillion était une féministe. Pouvez-vous définir ce qu'est le féminisme ?
Le féminisme est une doctrine ou une attitude politique, philosophique et sociale fondée sur l'égalité des sexes qui préconise l'indépendance des femmes, l'amélioration et l'extension de leurs droits.
Germaine Tillion, à votre avis, a-t-elle reçu une éducation féministe ?
Non, ses parents appartiennent au monde de la bourgeoisie, à la fois républicaine et catholique. Son père était juge de paix à Allègre et sa mère écrivait des guides touristiques. À l'époque, on considérait que le rôle d'une femme bourgeoise était d'éduquer les enfants. À la mort de son mari, Émilie Tillion commence à subvenir seule aux besoins de sa famille. Germaine Tillion a été élevée par une mère qui travaillait et qui trouvait normal d'autoriser ses filles à étudier et à voyager librement. La mère de Germaine Tillion a laissé partir sa fille seule en Algérie avec plusieurs hommes qu'elle ne connaissait même pas.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Germaine Tillion a pris autant de risques que les hommes et n'était pas la seule dans ce cas. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ?
Germaine Tillion a participé activement à la résistance avec sa mère. Ensuite, elle a dénoncé la manière horrible dont les femmes déportées étaient traitées à Ravensbrück. Elle a notamment rapporté des témoignages sur les lapins, c'est-à-dire les jeunes polonaises que les nazis mutilaient pour faire des expérimentations pseudo-médicales. Au camp de Ravensbrück, Germaine Tillion a créé une chaîne de solidarité avec les autres déportés. En particulier, les résistantes françaises comme Geneviève de Gaulle Antonioz et Anis Postel-Vinay.
Après la Seconde Guerre mondiale, Germaine Tillion s'est aussi engagée pour l'émancipation des femmes méditerranéennes. Comment a-t-elle fait connaître leurs conditions de vie ?
En effet, en 1966, Germaine Tillion publie le Harem et les Cousins pour dénoncer leur situation de soumission. Très respectueuse, elle a observé et cherché à comprendre l'effondrement de cette culture sans la condamner ni porter de jugement. Germaine Tillion est une féministe, elle veut prouver que les femmes peuvent vivre en toute autonomie et à elles-mêmes un mental d'acier.
Pour conclure, Germaine Tillion est-elle uniquement féministe ?
Germaine Tillion a défendu la cause des femmes opprimées par des sociétés patriarcales ou la dictature nazie. Mais c'était avant tout une femme exemplaire à titre personnel, ayant dédié sa vie à la cause des femmes autant que celle des hommes. Nous pensons que c'était surtout une humaniste très courageuse.
Merci. Nous allons à présent écouter L'oiseau liberté de Damien XVI.
Ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Nos internationales battront toujours l'espoir. Et si nos frères tombent, nous chanterons leur mémoire. Et si c'est sous les bombes que s'écrit notre histoire, nous resserrons nos rangs, nous planterons nos croix. Nous combattrons les vents, qui nous combattra. Comme un oiseau blessé dont la nuit volera. Mon oiseau liberté qui repart au combat. S'il faut mourir d'amour, mourir de liberté, partir comme un oiseau qui s'en est envolé, alors oui que je meurs comme un drapeau dressé, une rose tendue face au fusil pointé, une rose en martyr pour nos humanités, juste un bouquet d'amour pour nos amis tombés, qui n'ont oui que leur fleur à offrir au bûcher, qu'une fleur à leur tendre à ses fusils pointés. Se lèvent tous ceux qui ont le même Dieu sur terre, puisque le Dieu des dieux, oui, c'est d'aimer son frère. Quelle que soit la douleur des blessures de nos âmes, de mon pays qui pleure quand on touche à la flamme. Quels que soient les cimetières, enfants de notre patrie, la force des lumières tire plus loin qu'un fusil. Mon pays des lumières, il est l'heure de s'unir. Ton drapeau triste, France, il est l'heure de brandir. Flotte pour toujours de ce vendredi noir, mon pays liberté, le drapeau de l'espoir. Un jour l'oiseau me dit comme un souffle printemps, qu'un jour prochain, oui, sur la terre de nos enfants, il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus le sang, il n'y aura plus ces misères qui nous cernent à tout vent. Mon oiseau liberté ne craint pas les fusils, il ne craint pas les balles de toute tyrannie. Et même s'il s'envole, tué par l'infamie, renaîtra de ses cendres mon oiseau infini. Il repart au combat sous le ciel de novembre, la lumière renaîtra pour de meilleurs septembre. Il repart au combat face à l'ombre des nuits, il repart au combat contre la triste vie. Il vole sur les plaines, il s'en va triste plume, sous le chant de nos pères, sous le chant de la lune. Au vent soufflant les terres qu'on martèle l'enclume, nous chantons nos prières pour que la nuit s'allume. Chante avec moi frangin pour notre mère la terre, qu'ici-bas il n'est rien qui ne fasse lumière. Nous sommes tous en chemin vers l'obscur ou le clair, et perdus dans les crins de notre mère la terre. Envolé sur le dos de l'oiseau liberté, emporté par les crocs de la haine incarnée. Si nous sommes cernés par tous les terrorismes, ceux du sang de la haine ou ceux de nos fascismes, s'il faut plus qu'une armée pour protéger nos libres, on ne combat jamais mieux qu'en ouvrant des livres. Pour cela fusillés qui pour l'éternité resteront le symbole de notre liberté. Nous chantons nos prières, nous chantons pour la terre, nous chantons la lumière contre l'obscurité. Tous les peuples du monde pour lever liberté, quelles que soient les prières pour ne pas oublier, main tendue à leurs frères contre fusil pointé, que nous sommes sur la terre tous frères d'humanité. Nous sommes fils des Ardennes, nous sommes fils de Provence, puis jusqu'aux Aquitaines où nous sommes la France. Nous sommes pays du libre, pays des tolérances. Face à l'assassin, nous offrons l'innocence. De l'oiseau liberté, face aux horreurs mitraille, nous ne quitterons jamais, oui, le champ de bataille. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est la vie sur terre. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est d'aimer son frère. Mon oiseau liberté ne craint pas les fusils, il ne craint pas les balles de toute tyrannie. Et même s'il s'envole, tué par l'infamie, renaîtra de ses cendres mon oiseau l'infini. Et même s'il s'envole, tué par l'infamie, renaîtra de ses cendres mon oiseau infini. Thank you.
malgré son œuvre admirable, Germaine Tillion aurait pu tomber dans l'oubli. Heureusement, elle a fait partie de ceux que la France a choisi d'honorer le 27 mai 2015. Tiffany va évoquer cette journée durant laquelle Germaine Tillion est entrée au Panthéon, aux côtés de trois autres grandes figures de la Résistance, Jean Zé, Pierre Brossolette et Geneviève de Gaulle-Antonioz. Pouvez-vous nous raconter comment s'est déroulée cette cérémonie ?
Sur demande de sa famille, le cercueil de l'ethnologue française était vide, car son corps repose au cimetière de Saint-Maur-des-Fossés. Cette cérémonie a été accompagnée d'un cortège, les cercueils ont été escortés jusque dans la nef du Panthéon. Le président de l'époque, François Hollande, a prononcé un discours honorant ces quatre personnalités.
Pourquoi Germaine Tillion a-t-elle été choisie comme héroïne nationale à cette occasion ?
Germaine Tillion est l'une des Françaises les plus décorées, grâce à son courage durant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait défendu, au péril de sa vie, la vérité, la justice et les droits de l'homme, car elle avait créé le réseau de résistance du Musée de l'Homme, qu'elle avait ensuite dirigé. Elle avait aussi résisté dans la prison de Fresnes, où elle écoutait Radio Londres et communiquait les informations aux autres prisonnières.
Pour quelle raison Geneviève de Gaulle-Antonioz a-t-elle été panthéonisée en même temps que Germaine Tillion ?
Germaine Tillion a contribué à organiser des évasions vers la zone libre. C'est comme cela qu'elle a rencontré Geneviève de Gaulle-Antonioz, elle aussi déportée à Ravensbrück. Les deux femmes ont fait partie du même réseau de résistance et sont devenues de grandes amies. Elles ont en commun de s'être engagées tout au long de leur vie. Geneviève de Gaulle-Antonioz a notamment défendu la cause des plus pauvres au sein d'ATD Carmont.
Ma radio.
Malgré cet hommage, la plupart des Français méconnaissent la personnalité de Germaine Tillion. Une autre manière de transmettre ses valeurs consiste à donner son nom à des établissements scolaires. Margot va expliquer pourquoi le lycée a reçu ce nom en 2016, votre lycée, lors de la fusion des lycées Grand Chénois et Viette.
Changer le nom d'un établissement scolaire n'est ni simple ni anodin. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Pour trouver un nom qui convient, un comité appelé le comité des sages avait été créé. Il était composé d'enseignants. 8 professeurs sur 250 avaient répondu présents. Et, étonnamment, pas un seul homme. Le choix d'un nom de femme a semblé évident étant donné la composition exclusivement féminine du comité. De plus, quelques membres de ce comité étaient professeurs d'histoire. De cette réflexion, deux noms sont ressortis, Simone Veil et Germaine Tillion.
Et pourquoi le comité n'a-t-il pas choisi le nom de Simone Veil, qui était aussi une grande dame ?
Germaine Tillion a le profil d'une combattante de la République. C'est un modèle auquel les lycéens peuvent s'identifier. Elle a étudié la culture méditerranéenne, ce qui est susceptible d'intéresser beaucoup de nos camarades originaires de pays étrangers. Germaine Tillion avait une ouverture d'esprit vraiment internationale et se battait pour des valeurs universelles, le courage, la fermeté face à l'adversité. Elle incarne l'esprit de résistance. Au vu de son parcours héroïque, ce choix semblait évident.
Merci Marie-France et merci Martine. Merci beaucoup à la classe de 1MGA de nous avoir rappelé le parcours hors du commun de cette grande humaniste. Madame Gauthier et moi-même félicitons nos 26 élèves pour la qualité de leur travail, dont ils peuvent être fiers. Dans son ouvrage Ravensbrück, Germaine Tillion avait elle-même dit, exprimant par là même son optimisme inconditionnel, « La connaissance est un engagement et une évasion, car lorsque vous n'avez plus rien, seule la raison humaine peut vous empêcher de sombrer. » Nous remercions sincèrement Frédéric Geffroy, professeur en BTS audiovisuel, et ses étudiants qui ont réalisé cette émission. Sans eux, elle n'aurait pas été possible. C'est la fin de Germaine Tillion, une intellectuelle engagée, que vous pouvez podcaster et commenter sur le site du lycée. Nous vous laissons écouter une chanson de Zaz intitulée « Si ».
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières Si j'avais le sang bleu, le don d'effacer et tout refaire. Si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment. Si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants. Si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerai des édens au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Goutte à goutte et cœur à cœur.
Ma radio.